Il n'était pas mort. Il n'avait pas dormi. Mais au bout d'un moment, après avoir été estropié par Annie, la douleur s'était estompée. Il avait eu l'impression de dériver comme détaché de son propre corps, montgolfière de pensée pure ayant largué les amarres. Et merde, pourquoi se tracasser? Elle l'avait fait, et tout le temps qui s'était écoulé depuis n'avait été que souffrance et ennui, entrecoupé d'accès de travail sur ce livre stupidement mélodramatique pour échapper à l'un et à l'autre. Tout cela n'avait aucun sens. Oh, mais pas du tout. Il y a un thème sous-jacent ici, Paul. Le fil caché qui relie toutes choses. Le fil de la vérité, ne le vois-tu pas? Misérie, évidemment. Misérie était ce fil qui reliait les choses entre elles. Cependant, vrai ou faux, il n'en était pas moins sacrément crétin. En tant que nom commun, misère était en général synonyme de souffrance prolongée et souvent inutile. En tant que nom propre, il caractérisait un personnage et une intrigue. Cette dernière était sans doute prolongée et inutile, mais néanmoins, elle ne tarderait pas à rapidement arriver à son terme. Des misères, il en avait eu durant les 4, à moins que ce ne fût 5 derniers mois de sa vie, c'est sûr, des tas de misères, des jours avec et des jours sans. Mais c'était certainement trop simple, certainement... Oh non, Paul, rien n'est simple avec misérie. N'oublie pas que tu lui dois la vie, que tu le veuilles ou non. Car après tout, tu es devenu Sherazade, non? Une fois de plus, il s'efforça de chasser ses pensées et en fut incapable. La persistance de la mémoire est tout le tralala. Les écrivaillons, eux, veulent simplement se marrer. Puis une idée inattendue se présenta, une idée nouvelle qui ouvrait un champ de réflexion encore vierge. Ce que tu as négligé de reconnaître jusqu'ici, tant c'était évident, est que tu jouais, que tu joues encore, le rôle de Sherazade vis-à-vis de toi-même. Il s'y là, baissa les mains et contempla l'air stupide. L'été qu'il avait bien cru ne jamais voir. L'ombre d'Annie passa et disparut à nouveau. Est-ce que c'était vrai? Sherazade vis-à-vis de moi-même? Se répéta-t-il en son fort intérieur. Dans ce cas, il se trouvait confronté à une absurdité de proportions colossales. Il devait sa survie au fait qu'il voulait achever ce chef-d'œuvre de nullité que Annie l'avait forcé à écrire. Il aurait dû mourir, mais n'avait pas pu. Il fallait d'abord savoir comment ça allait se terminer. « T'es vraiment foutrement cinglé. »« T'es bien sûr ?»« Non. » Il n'en était pas très sûr. Il n'était plus sûr de rien, d'ailleurs. À une exception près, toute sa vie avait tourné et continuait de tourner autour de misérie. Il laissa son esprit partir à la dérive. Le nuage, songeait-il. Commence avec le nuage. Cette fois-ci, le nuage avait été plus sombre, plus dense et d'une certaine manière plus moelleux. Il avait éprouvé une sensation non pas de flottement mais de glissade. Il était parfois traversé de pensées, parfois d'élancements douloureux, parfois encore, faible et lointaine, il entendait la voix d'Annie avec des intonations semblables à celles qu'elle avait eues lorsqu'elle avait craint qu'en brûlant dans le barbecue le manuscrit ne mît le feu à toute la maison. « Buvez cela, Paul. Il le faut absolument. » Glisser ? Non. Ce n'était pas du tout le mot juste. Il fallait plutôt parler de « sombrer ». Il se souvint d'un appel téléphonique à 3 heures du matin, à l'époque où il était au collège. Le pion endormi du 4e était venu cogner à sa porte, lui disant de venir répondre au foutu téléphone. Sa mère. Viens aussi vite que tu peux, Polly. Ton père vient d'avoir une crise cardiaque. C'est grave. Il sombre. et il était venu aussi vite qu'il avait pu, poussant la vieille Ford jusqu'à 120 en dépit des vibrations de la direction dès qu'il dépassait le 100 à l'heure. Tout cela pour rien, en fin de compte. À son arrivée, son père ne sombrait plus, mais gisait définitivement par le fond. Dans quelle mesure avait-il été sur le point de sombrer lui aussi définitivement la nuit de la hache? Il l'ignorait. Mais le fait qu'il n'eût presque pas ressenti de douleur pendant la semaine qui avait suivi l'amputation montrait sans doute à quel point il en avait été prêt. Cela ainsi que la note de panique dans la voix d'Annie. Il était resté dans un demi-coma, respirant à peine à cause des effets secondaires du traitement médical auquel elle l'avait soumis, le goutte-à-goutte de glucose de nouveau fiché dans le bras. Ce qu'il avait sorti de là, c'était le battement des tambours et le bourdonnement des abeilles. Les tambours burqa, les abeilles burqa, les rêves burqa. Saignement de couleurs lent et incessant, vers un pays et une tribu qui n'avaient jamais existé au-delà de la feuille de papier sur laquelle il écrivait. Rêve de la déesse, du visage de la déesse, noir et menaçant au-dessus de la jungle verte, ruminant des songes moroses et s'érodant, sombre déesse, sombre continent, pierre pleine d'abeilles. Recouvrant même ce tableau, il y en avait un autre, de plus en plus clair et précis, comme si l'on avait projeté une diapositive géante sur le nuage dans lequel il gisait, avec le temps. Image d'une clairière au milieu de laquelle se dressait un vieil eucalyptus. Accroché à la plus basse de ses branches, une paire de menottes démodées d'acier bleui. Des abeilles grouillaient dessus. Les menottes étaient vides. Elles étaient vides parce que Misery s'était enfuie. Elle s'était bien échappée, non? N'était-ce pas ainsi que l'histoire devait se poursuivre, en principe? Oui, en principe. Mais il n'en était plus aussi convaincu. Que signifiaient ces menottes vides? Qu'elle s'était enfuie ou qu'on l'avait enlevée? Pour l'emporter dans l'idole? Pour l'amener à la reine des abeilles, la super nana des burqas? Tu as aussi été Scheherazade vis-à-vis de toi-même. Pourquoi racontes-tu donc cette histoire, Paul? Et à qui la racontes-tu? À Annie? Non, évidemment. Il ne se penchait pas sur le trou dans le papier pour Annie, ni pour lui faire plaisir. Il s'y enfonçait, au contraire, pour fuir Annie. La douleur était revenue avec les démangeaisons. Le nuage s'éclaircit encore une fois et encore une fois se dissipa. Il commença à apercevoir la chambre, ce qui était malsain, et Annie, ce qu'il était davantage encore. Cependant, il avait décidé de vivre. Quelque chose en lui, qui était tout aussi accro au feuilleton à suivre, que Annie, lorsqu'elle était enfant, avait décidé qu'il ne pouvait pas mourir sans savoir comment tout cela se terminait. S'était-elle échappée avec l'aide de Yann et de Geoffrey? Ou avait-elle été traînée dans le crâne de la déesse? C'était ridicule. Mais ces questions stupides paraissaient réellement exiger une réponse. Elle ne lui permit pas de se remettre au travail, du moins pas tout de suite. Il comprenait, à son regard fuyant, à quel point elle avait eu peur, à quel point elle avait encore peur, qu'il revenait de très, très loin. Elle prenait soin de lui de manière extravagante, allant jusqu'à lui changer le pansement de son moignon sanguinolent toutes les 8 heures. Et au début, l'avait-elle informé, avec l'air de quelqu'un sachant qu'il n'aurait jamais de médaille pour ce qu'il avait fait, alors pourtant qu'il en méritait une fois toutes les 4 heures, le lavant longuement à l'éponge et le frictionnant à l'alcool, comme pour nier ce qu'elle avait fait. Travailler, lui dit-elle, lui ferait mal. Ça ne ferait que vous mettre en retard, Paul. Je ne vous le dirai pas si ce n'était pas vrai. Croyez-moi. Au moins, vous, vous savez ce qui va arriver. Moi, je meurs d'impatience de l'apprendre. il découvrit qu'elle avait lu tout ce qu'il avait écrit. Son travail d'avant l'intervention chirurgicale, pourrait-on dire, pendant qu'il était resté suspendu entre la vie et la mort, un peu plus de 300 pages tapées à la machine. Il n'avait pas rempli les N, minuscules et majuscules, des 40 dernières, ce qu'elle avait fait pour lui. Elle lui montra son travail avec une fierté mêlée de méfiance gênée. Ces N, minuscules et majuscules, étaient impeccablement faits, comparés aux siens, devenus une espèce de bosse informe. Bien qu'elle ne le lui eût jamais dit, il croyait que Annie avait accompli cette tâche fastidieuse soit comme preuve supplémentaire de sa sollicitude. « Comment pouvez-vous prétendre que j'ai été cruel avec vous, Paul ? Moi qui ai rempli tous ces N minuscules et majuscules manquants ?» Soit en tant qu'acte de contrition, ou encore peut-être comme rite de quasi-superstition. Suffisamment de lavage à l'éponge, suffisamment de N minuscules et majuscules remplis, suffisamment de changement de pansement, et Paul vivrait. La femme abeille, Bouka, t'es puissante, magicienne, Buana, emplit tous ces bons, yeux, de N, minuscules et majuscules, et il y a t'es bien, ensuite. C'est comme ça qu'elle avait commencé. Puis était venu le moment du « il faut que ». Paul connaissait tous les symptômes. Lorsqu'elle disait qu'elle mourait d'envie de connaître la suite, elle ne plaisantait pas. « Parce que tu continues à vivre pour savoir ce qui va se passer ensuite ?»« C'est bien ce que tu dis, Annie ?» Aussi stupide que cela fût, et même scandaleux, tant c'était absurde, il pensait ne pas se tromper. Il faut que... Il avait découvert avec une certaine irritation que c'était quelque chose qu'il pouvait provoquer quasiment à volonté dans les misérés, alors qu'il n'arrivait pas à le contrôler dans ses autres romans plus sérieux. On ne savait jamais tout à fait où découvrir le « il faut que ». Mais en revanche, on savait lorsqu'on le tenait. Il avait toujours légèrement honte de l'attraper, une impression de manipulation, mais cela le faisait aussi se sentir agressif dans son travail. Bon sang, des jours passaient, et le trou dans le papier restait minuscule, la lumière était mauvaise, les conversations que l'on surprenait sans esprit. On continuait parce que c'était tout ce que l'on pouvait faire. Confucius disait que si un homme veut pousser un sillon de blé, il doit commencer par pelleter une tonne de merde. Et puis un jour, le trou s'agrandissait et prenait des proportions cinémascopiques. La lumière brillait à travers, comme les rayons du soleil, dans une superproduction de Cécile Bédemille, et l'on savait que l'on tenait le « il faut que », bien vivant et piaffant. Le « il faut que », comme dans « Je pense que je vais continuer encore 15-20 minutes, chérie. Il faut que je vois comment se termine ce chapitre. » Même si le type qui dit ça a passé la journée à imaginer qu'il allait tirer son coup, même s'il sait qu'il y a de bonnes chances pour que sa femme soit endormie lorsqu'il arrivera finalement dans la chambre. Le « il faut que », comme dans « Je sais que je devrais me mettre à préparer le repas », il va encore gueuler comme un âne si je sors une fois de plus des conserves, mais il faut que je voie comment ce truc finit. Il faut que je sache si elle va vivre. Il faut que je sache s'il attrapera le bâton merdeux qui a tué son père. Il faut que je sache si elle va découvrir que son mari baise sa meilleure amie. Le « il faut que ». Aussi ignoble qu'une pipe taillée au fond des chiottes d'un bastringue minable, aussi raffiné que le mimi de la plus douée des call girls. Oh bon sang que c'est moche, oh bon sang que c'est bon, et oh bon sang à la fin peu importe, vulgarité et brutalité, car à la fin, c'est comme disent la ribambelle des Jackson sur leur disque, n'arrêtez pas tant que vous n'en avez pas assez. Tu es aussi, Scheherazade, vis-à-vis de toi-même. ce n'était pas une idée qu'il aurait pu analyser ou même comprendre. Pas sur le moment, il souffrait trop. Mais d'une certaine manière, il le savait bien, non ? Pas toi. Les types qui suent du burnous dans l'atelier en bas, eux, savent. Oui, voilà qui sonnait juste. Le grondement de la tondeuse enfla. Annie fut visible pendant un instant. Elle le regarda, le vit qui lui rendait son regard, et le salua d'un geste de la main. Il leva la sienne, celle qui avait encore un pouce dessus, en réponse. Puis elle sortit de son champ de vision. Bas d'affaire. Il arriva finalement à la convaincre que travailler, loin de lui faire perdre du terrain, allait lui en faire gagner. Il était hanté par la précision des images qu'il avait attirées hors du nuage, et « hanté » était le mot exact. Tant qu'elle n'aurait pas été couchée sur le papier, elle resterait des ombres, attendant d'être exorcisée. Et bien qu'elle ne l'eût pas cru sur le moment, elle l'autorisa tout de même à se remettre au travail. Non pas parce qu'il l'avait convaincue, mais à cause du « il faut que ». Il n'avait tout d'abord pu travailler que par un coup bref et douloureux, 15 minutes, une demi-heure, si l'histoire l'exigeait. Mais même ces courtes séances restaient éprouvantes. Le moindre changement de position se traduisait par un violent réveil de son moignon, à la manière dont un tison s'enflamme avec vigueur sous l'effet d'une brise soudaine. Il subissait un vrai supplice pendant qu'il écrivait, mais ce n'était pas le pire. Le pire était les 2 ou 3 heures suivantes, lorsque le moignon en voie de guérison le rendait fou à force de démangeaisons qui bourdonnaient comme un essaim d'abeilles somnolentes sur la cicatrice. Mais c'était lui qui avait eu raison, pas elle. Il ne redevint jamais réellement bien. Cela lui était sans doute impossible dans une telle situation, mais sa santé s'améliora et il reprit quelques forces. Il avait conscience du rétrécissement de son horizon et de ses intérêts, mais il l'acceptait comme le prix à payer pour sa survie. Il était déjà miraculeux qu'il eût simplement survécu. Assis devant la machine à écrire dont le sourire devenait de plus en plus édenté, et repensant à toute cette période faite de travail plus que d'événements, Paul acquiesça. Oui, il avait été sa propre Scheherazade, supposait-il. De même qu'il était la femme de ses rêves, lorsqu'il s'attrapait et se masturbait au rythme fiévreux de ses fantasmes. Nul besoin d'un psychiatre pour se rendre compte de l'aspect auto-érotique de l'écriture. On brandouille une machine à écrire au lieu de s'astiquer soi-même, mais l'un comme l'autre dépendent d'une imagination fertile, d'une main rapide et d'un engagement sans faille dans l'art de l'outrance. Mais n'y avait-il pas aussi quelque histoire de baise là-dessous, même si elle était du genre le plus cérébral qui fût? Parce qu'une fois qu'il s'y était mis, eh bien, elle se gardait bien de l'interrompre pendant qu'il travaillait, mais elle s'emparait de sa production quotidienne dès que la dernière page était sortie de la machine, ostensiblement pour y rajouter les lettres manquantes. Mais en réalité, il ne l'ignorait plus maintenant, de même que les hommes sexuellement subtils savent si celles qu'ils ont draguées coucheront ou non à la fin de la soirée, pour s'injecter sa dose. Pour se payer son « il faut ». Le feuilleton. Oui, elle a régressé jusque-là. Sauf qu'au cours des derniers mois, elle a eu droit chaque jour, ou presque, à sa dose. Au lieu que ce soit seulement le samedi après-midi. Et Paul, qui la lui procure, et son écrivain de prédilection, au lieu de son grand frère. Ses séances à la machine à écrire devinrent peu à peu plus longues. La douleur s'amenuisait, et il retrouvait une partie de son endurance. Mais en fin de compte, il n'arrivait pas à écrire assez vite pour satisfaire aux exigences de l'idole. le « il faut que » qu'ils avaient conservé tous les deux en vie, et c'était bien ça sans quoi elle l'aurait assassiné depuis longtemps, se supprimant après, était aussi ce qui lui avait fait perdre le pouce. Horrible, mais également comique, d'une certaine façon. Voyons, Paul, un peu d'humour, c'est bon pour ton sang. Et dis-toi que ça aurait pu être bien pire. Tu aurais pu perdre ton pénis, par exemple. Et celui-là, je n'en ai qu'un, fit-il à haute voix, éclatant d'un rire frénétique dans la chambre vide, en face de la royale tant haïe avec son sourire de sorcière. Il rit jusqu'à en avoir mal au ventre et au moignon, jusqu'à ce que son esprit eût mal. À un moment donné, ce rire se transforma en horribles sanglots secs qui réveillèrent toutes ses douleurs, y compris dans ce qui restait de son pouce gauche. C'est seulement alors qu'il fut capable de s'arrêter. Il se demanda d'une manière sinistre s'il n'était pas sur le point de sombrer dans la démence. Mais au fond, est-ce que cela avait de l'importance ?